La semaine de l'art.
Le magazine radio de la Tribune de l'Art. Bonjour et bienvenue dans cette 46e semaine de l'art avec comme invité aujourd'hui Pierre-Yves Kéris. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Didier.
Vous travaillez à Bruxelles, à l'IRPA, Institut Royal du Patrimoine Artistique. Vous nous raconterez peut-être d'abord quel est votre parcours pour arriver là et nous parlerons de nombreuses choses, du patrimoine et des musées en Belgique, mais aussi votre spécialité, les peintres liégeois du XVIIe siècle, du très bel ouvrage Berthollet Flemal que vous avez fait paraître chez Arthena, et de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Donc j'espère que nous aurons assez d'une heure pour parler de tout cela. Expliquez-nous ce qu'est l'IRPA, et ensuite, comment êtes-vous entré à l'IRPA? Quand y êtes-vous entré? Est-ce que vous y faites?
Alors, l'IRPA est ce qu'on appelle chez nous un établissement scientifique fédéral. C'est une des institutions de recherche qui dépend de l'État national, comme les grands musées nationaux, pour rester dans notre domaine du patrimoine, mais c'est aussi l'Observatoire national, la Bibliothèque nationale de Belgique. Tous ces établissements font partie de ces institutions scientifiques fédérales. L'IRPA a été créé en 1948, sous un autre nom que les spécialistes connaissent d'ailleurs sous l'acronyme ACL. C'est un institut qui a été créé pour la conservation et l'étude du patrimoine de la Belgique. Et c'est vraiment le fondement de cette institution, c'est un trépied. Nous avons aujourd'hui encore trois départements qui sont les héritiers des trois domaines de prédilection, c'est-à-dire les ateliers de restauration, et l'IRPA est surtout connu comme centre de restauration, les laboratoires, de sorte que ces ateliers et laboratoires, c'est un peu l'équivalent de ce que vous avez ici à Paris avec le C2RMF. Mais alors nous avons un troisième pilier, et là c'est assez original dans cette institution, qui est le pilier de l'inventaire photographique, l'inventaire du patrimoine national. Nous avons une photothèque de plus d'un million de clichés, ce qui, à l'échelle du pays, en fait probablement la photothèque la plus riche au monde sur le patrimoine d'un seul pays. Sur ce million de photos, il y en a déjà 700 000 qui ont été numérisées, qui sont accessibles gratuitement sur le site de l'IRPA, et qui sont, et ça c'est assez récent, c'est une décision vraiment extrêmement importante que nous avons prise, ces clichés sont même téléchargeables en haute résolution gratuitement. Donc nous nous inscrivons dans ce mouvement de diffusion vraiment du patrimoine.
Alors nous reviendrons peut-être sur cette question de la diffusion des photos. Qu'est-ce que vous faites à l'IRPA vous-même?
Moi-même, donc je suis entré à l'IRPA en 1998, donc ça fait maintenant 18 ans. Avant cela, j'avais une maîtrise en histoire de l'art à l'université de Liège. J'ai commencé ma carrière comme assistant en histoire de l'art dans cette université. J'ai travaillé notamment pour la Fondation Roi Baudouin, qui est extrêmement importante pour le patrimoine.
Peut-être qu'on dira un mot de la Fondation Roi Baudouin.
En Belgique. J'ai travaillé au service du professeur Tullier comme maître de conférence invité au Collège de France, parce que Jacques Tullier s'intéressait beaucoup aux peintres liégeois du XVIIe siècle, là je tiens à y insister, je lui dois vraiment beaucoup. J'ai fait une parenthèse de 6 ans au ministère belge de la recherche, on appelle chez nous de la politique scientifique. Ça c'est évidemment, c'était passionnant pour moi parce que je me suis retrouvé de l'autre côté du miroir. Donc j'étais notamment dans ceux qui géraient, qui finançaient les programmes de recherche, et j'étais plus spécialement affecté à tous les programmes de recherche dans le domaine des sciences historiques, ce qui m'a donné notamment une très bonne connaissance du paysage scientifique belge. Et puis je suis entré à l'IRPA. Alors pour l'anecdote, il se fait que dans mon travail à la politique scientifique fédérale, je devais m'occuper de l'IRPA. Et régulièrement, lorsque j'allais en réunion à l'IRPA, la directrice prenait un malin plaisir à me montrer les chefs-d'œuvre qui étaient en restauration dans les ateliers. Et évidemment, moi, pardonnez-moi l'expression triviale, mais je bavais devant ces œuvres et je me dis, mais c'est ici que je dois être. Et donc, évidemment, j'ai passé les examens et j'ai été recruté à l'IRPA il y a 18 ans. J'ai occupé différentes fonctions, mais je travaille pour l'essentiel, ce qu'on appelle le département documentation, c'est-à-dire essentiellement cet inventaire photographique du patrimoine national. Et je suis dans une cellule qui s'appelle significativement inventaire et recherche en histoire de l'art. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment tenu à développer quand je suis arrivé avec les jeunes collègues qui arrivent à ce moment-là aussi, de dire, on ne se contente plus de faire des photos pour que d'autres les exploitent, nous les exploitons aussi et nous développons nos propres recherches spécifiques fondées, enfin, dans le domaine de l'art en Belgique, et quand même très fortement fondées sur cette photothèque fabuleuse.
Est-ce que ça ressemble finalement à l'inventaire en France, qui maintenant n'est plus centralisé, mais qui était centralisé et qui a été créé par André Malraux, qui maintenant est régionalisé? Est-ce que c'est un petit peu le même principe?
Alors, oui et non, parce que il n'y a pas eu d'inventaire systématique, notamment pour le patrimoine immobilier à l'IRPA. Ça, c'est un inventaire qui est pris en charge par ce qu'on appelle chez nous les régions, qui sont des entités fédérées, qui font, là, qui ont fait un inventaire sommaire complet de tout le patrimoine immobilier. En revanche, pour le patrimoine mobilier, il n'y a pas d'inventaire systématique, parce que ce n'est pas la même institution, ni la même entité fédérée qui s'en occupe. Et donc, l'IRPA a fait tout un temps des inventaires systématiques. Par exemple, pour les églises, ça je tiens à insister parce que je pense que ça a vraiment été un modèle. Nous avons eu dans les années 1960 un ministre de la Culture d'une lucidité extraordinaire. Il a compris très vite que la réforme liturgique issue du Concile Vatican II allait s'avérer catastrophique pour le patrimoine des églises. Et il a dit « Je veux que l'IRPA fasse un inventaire sommaire rapide, rapide ça a pris 20 ans, 20 ans c'est rapide, de tout le patrimoine, de toutes les églises, paroissiales et cathédrales de Belgique. Ça a pris effectivement une vingtaine d'années. Il a fait engager 10 historiens d'art par l'IRPA qui ont parcouru toute la Belgique et qui ont fait photographier tout systématiquement. Et c'est une des grandes richesses de notre photothèque que cette couverture photographique exhaustive, ou quasiment exhaustive, on n'est jamais tout à fait complet, du patrimoine des églises de Belgique. Alors après cela, c'est vrai qu'il y a eu, les inventaires étaient moins systématiques. Donc maintenant, c'est en fonction des opportunités, des projets de recherche, de projets d'exposition, etc.
Enfin, si l'inventaire est fait, à la limite, il n'a plus à être fait.
Oui, mais il n'est jamais fini. On se rend compte que... Alors en plus, toutes nos photos, jusqu'au début des années 90, étaient en noir et blanc. Aujourd'hui, on fait des photos en couleur. Alors, on ne peut pas tout refaire en couleur, mais on essaie au moins de refaire les pièces majeures. Donc, quand je vais dans une église, ben, je refais une couverture photographique. Quand je dis « je », c'est pas moi qui photographie. Nous avons une dizaine de photographes professionnels au sein de l'Institut. Donc, je suis accompagné d'un photographe et je choisis les ordres. Voilà, on refait ça, ça, ça en couleur parce qu'on sait qu'on ne peut pas tout faire systématiquement.
Vous avez dit que l'IRPA était fédéral. Donc, je voudrais qu'on parle un peu de la manière dont les musées et le patrimoine, je ne dirais pas sont traités, mais quelle est la structure qui s'occupe, quelles sont les structures qui s'occupent du patrimoine d'un côté, donc les églises, les bâtiments, les monuments historiques, et les musées. Vous me disiez avant de commencer cette émission qu'il ne faut pas confondre, la Belgique n'est pas comme en France où il y a des régions, vous disiez que la Belgique, il y a finalement deux parlements, qui sont le parlement flamand et le parlement wallon, et que et même là, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça.
Il n'y avait que deux parlements, il y en a 9 au total.
D'accord.
Il y a 9 parlements qui sont tous les 9 autonomes et qui font des lois qui ont la même valeur que les lois nationales.
Alors, 9,
ça ne porte pas le nom de loi, mais enfin, soit.
Je vois Bruxelles, je vois la Flandre, je vois la Wallonie, quels sont les 6 autres?
Alors, il y a la communauté française, il y a la communauté flamande, il y a la communauté germanophone, il y a la commission communautaire commune à Bruxelles, il y a la commission communautaire flamande et la commission communautaire francophone. Je ne suis pas sûr de ne pas avoir oublié quelque chose en passant.
Alors,
c'est extrêmement complexe. Nos auditeurs savent que la Belgique est un État extrêmement complexe. Pour donner une illustration de cette complexité, donc, ce sur quoi j'insiste, quand on parle de culture, de patrimoine, ça devient très difficile de parler de la Belgique. Ça n'a plus de sens. Pourquoi? Parce que entre ce qui se passe, par exemple, en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre, les différences sont telles qu'elles sont quasiment... Il y a autant de différences entre la gestion du patrimoine en Wallonie et en Flandre qu'avec des pays étrangers. Donc, ce sont des structures tellement autonomes que maintenant, elles sont gérées et elles ont une politique du patrimoine qui n'a plus rien à voir avec ce qui se fait dans les autres entités fédérées. Où c'est extrêmement compliqué, c'est que le patrimoine architectural, une église, en ce compris par exemple l'immobilier par destination, l'hôtel avec son tableau, dépend d'une entité fédérée qu'on appelle chez nous la région. Mais le patrimoine mobilier, ça veut dire le tableau qui est sur le mur de l'église mais qui n'est pas à l'hôtel, dépend d'une autre entité fédérée, qu'on appelle chez nous la communauté, qui dépend d'un autre parlement, donc d'un autre gouvernement, et donc c'est extrêmement compliqué.
Une église en Wallonie, est-ce qu'elle dépend de la même entité qu'une église en Flandre?
Ah non, maintenant, non. Plus maintenant, puisque ce sont les régions qui ont maintenant l'autorité, donc les cultes ont été régionalisés le 1er janvier 2003, ce sont donc les entités régionales qui ont la tutelle sur les églises du point de vue du culte, Mais sur le mobilier ou l'immobilier, ce sont encore des instances différentes. Mais nous allons essayer d'épargner cela à nos auditeurs.
Alors, si on va l'épargner, mais effectivement, ça a l'air très, très compliqué.
Oui, voilà. Donc,
mais alors, pour être plus terre-à-terre, est-ce que le patrimoine est protégé en Belgique, là, je dirais dans toute la Belgique, ou est-ce qu'il y a des endroits où il est mieux protégé? Quelles sont les différences avec la France? Est-ce qu'on peut rentrer comme de manière très simple?
Voilà, je vais vous donner un exemple très clair qui va peut-être surprendre vos auditeurs. En Belgique, on classe des monuments historiques, hein, depuis 1835. Donc là, on a été, je dirais, à la pointe. On classe des objets depuis, pour la partie francophone du pays, depuis 2010. Donc on n'est nulle part. Et donc, un de mes collègues de l'IRPA aimait à répéter le patrimoine des églises, revenons à cet aspect-là si vous le voulez bien, c'est une immense collection sans conservateur. Parce que nous n'avons pas des DRAC, nous n'avons pas des CAOA.
Conservateurs d'antiquités ou objets d'art.
Voilà, qui ont cette tutelle par département. Ça veut dire que ce patrimoine des églises, sauf pour des églises classées monuments historiques, mais encore à ce moment-là, c'est le bâtiment vraiment qui est protégé, tout ce qui est attenant au bâtiment, à part pour les 150 œuvres qui ont été classées depuis 2010 en termes, dans le domaine du patrimoine mobilier, il n'y a pas vraiment de protection. Et alors, pour vous donner un exemple extrêmement clair, tout ce patrimoine était protégé par des lois extrêmement anciennes qui viennent d'être abrogées par la région Wallonne, qui a la tutelle pour les églises de Wallonie. Je ne parle que de cet aspect-là pour le moment, si vous le voulez bien, c'est tellement complexe. On a supprimé un arrêté de 1824, de la période belgo-hollandaise, qui protégeait le patrimoine des églises. Cet arrêté vient d'être abrogé sans être remplacé. Et donc, ce sont les autorités diocésaines qui sont en train de reprendre des dispositions d'ordre canonique, c'est-à-dire en dehors du droit civil, le droit du pays, qui sont des décisions internes à l'Église catholique, qui sont en train d'essayer de reprendre des décisions pour protéger le patrimoine parce que l'autorité publique s'en est désintéressée. Alors que chez nous, il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État en Belgique. Le patrimoine des Églises, il est propriété publique. Il est propriété publique. Ça veut dire quoi? Que l'autorité régionale wallonne s'est elle-même désintéressée de ce qui appartient à l'autorité publique en Wallonie pour essayer d'en faire venir, et que c'est finalement l'autorité religieuse qui est en train de prendre le relais parce qu'il y a justement un déficit d'intérêt du côté. Chez nous, on appelle ça surréaliste.
C'est effrayant, finalement, on se plaint en France et je suis le premier à me plaindre. Et on voit que c'est pire chez vous, mais personne ne râle, personne ne dit, les historiens de l'art, les gens un peu cultivés ne disent pas attention, il y a un vrai problème.
Alors je peux dire que j'ai fait écrire à tous les ministres successifs qui ont eu le culte dans leurs attributions, j'ai fait une lettre à la signature de la directrice de l'IRPA, donc il y a eu 4 ou 5 ministres qui ont reçu une lettre de l'IRPA expliquant bien les problèmes que ça allait poser s'ils ne prenaient pas ou s'ils ne conservaient pas les mesures de protection du patrimoine. Ça veut dire que maintenant ce patrimoine est beaucoup moins protégé et qu'on risque d'avoir des cas de vente.
Il peut y avoir, donc il n'est pas inaliénable.
Alors il l'était et il va le redevenir sur le plan canonique et plus sur le plan vraiment civil. Et ça, alors que c'est un désastre, les ventes. Moi, je me suis rendu compte, depuis que je travaille à l'IRPA, qu'un grand nombre d'objets qu'on prétendait voler dans les églises étaient en réalité des objets qui avaient été vendus par les desservants ou par les pharmaciens, parfois pour la bonne cause, parce que la tutelle n'est pas d'accord de donner l'argent nécessaire pour réparer la fuite dans le toit. Et c'est parfois le bourgmestre chez nous, donc l'équivalent du maire, qui dit au curé, mais vendez...
Il avait le droit, alors vous dites
que... C'est... Non, absolument pas.
Il n'avait pas le droit.
Il faut aller...
C'est arrivé en France, des curés qui vendent pour réparer alors qu'ils n'ont pas le droit, mais maintenant ils ont le droit.
Alors, c'est-à-dire que l'évolution, en tout cas, c'est nettement moins protégé qu'avant. Alors, on en est revenu aux conditions du décret impérial de 1809, qui s'appliquait aussi à l'origine en France, mais en tout cas dans les dispositions légales récent, qui concerne les cultes, il n'y a rien sur le patrimoine, comme si ce n'était pas une matière qui intéressait le politique qui doit s'occuper de la tutelle sur les églises.
Et alors, si on doit restaurer une œuvre, qui la restaure, qui paye, qui fait la restauration
Alors ça, c'est évidemment une des grandes difficultés. Moi, je me bats pour que, j'ai mis une idée comme ça il y a une dizaine d'années, que tous les rapports de restauration sur du patrimoine public en Belgique fassent l'objet d'un dépôt légal à l'IRPA. donc l'on conserve ce rapport. Le grand avantage, c'est que ça permettrait d'avoir une trace de ce rapport, parce qu'évidemment, quand on réinterviendra sur l'objet dans 20, dans 30 ou dans 40 ans, on est sûr que le rapport antérieur aura été conservé, alors que la plupart du temps, aujourd'hui, il a disparu. Et surtout, ça permettrait d'avoir des garanties sur la qualité des interventions. Malheureusement, aujourd'hui, effectivement, bon nombre de gestionnaires du patrimoine s'adressent, oserais-je dire, à n'importe qui en matière de restauration, puisque par ailleurs, mais ça je crois que c'est le même problème en France, le statut de restaurateur d'œuvres d'art n'est pas reconnu.
Bah, c'est-à-dire qu'en France, effectivement, il y a sur certains objets, on peut faire intervenir n'importe qui, les objets qui ne sont pas protégés, et même sur les autres, ce n'est pas comme les musées, alors je parle sous le contrôle de mes auditeurs et je vérifierai peut-être ce point, mais il y a un vrai problème de restauration en ce sens qu'on n'est pas obligé de prendre toujours des restaurateurs qui sont des restaurateurs diplômés pour faire des restaurations. C'est un sujet d'ailleurs que je dois aborder depuis très longtemps sur la tribune de l'art et que j'aborderai de manière un peu détaillée plus tard. Donc, l'IRPA par rapport à ça, donc vous restaurez des œuvres, alors on vous les donne,
alors, voilà. Donc, vous les envoie. L'IRPA maintenant étant une institution fédérale, a ce que j'appelle un peu pompeusement une magistrature d'influence. C'est clair que vu tout ce travail que nous avons fait pour les églises dans les années 60-70, nous avons reconnaissance, les églises nous reconnaissent notre travail, mais ça reste de leur bonne volonté. Donc évidemment, nous sommes très souvent sollicités pour restaurer des œuvres, notamment d'églises. Mais nous ne pouvons pas tout faire. Donc ce qu'on essaie, c'est de faire des suivis aussi, et surtout de recommander des restaurateurs compétents. Parce que c'est évidemment la grande difficulté, puisqu'il n'y a pas de protection
Qui paye les restaurations?
Alors, ce sont les propriétaires, donc souvent les musées, les fabriques d'églises, et pour beaucoup d'œuvres majeures, et notamment des restaurations très coûteuses, on fait appel à des sponsors. Donc il y a vraiment là, une politique très développée pour de recherche de sponsors, et il faut souligner à cet égard le rôle absolument crucial joué par la Fondation Rabaudouin.
Alors, un mot de la Fondation Rabaudouin. Nous avons, sur la Tribune de l'Art, parlé de quelques acquisitions de la Fondation Rabaudouin, voilà. qui déposent des œuvres dans les musées ensuite.
Exactement. Donc la Fondation Rabaudouin, c'est une fondation d'utilité publique. Dans mes souvenirs, elle a été créée en 1976 pour le jubilé du roi Baudouin. C'est un cadeau de la nation au roi, et cette fondation s'occupe, oserais-je dire, au sens large de la qualité de la vie. Et elle a développé une orientation patrimoine, mais qui n'est qu'une de ses actions, et a particulièrement développé tout l'aspect acquisition d'œuvres d'art, se rendant compte que les musées en Belgique sont souvent des petits musées qui n'ont pas les moyens d'investir des sommes importantes pour l'acquisition d'œuvres de qualité. Et donc, elle a créé une collection, elle est propriétaire de ces œuvres, je fais partie du comité de contrôle des collections, comme on dit, mais elle les dépose dans les musées. Donc elle a une immense collection, mais elle ne la conserve pas elle-même, elle la met en dépôt. L'idée, c'est de valoriser évidemment ces collections à travers les musées. Et parallèlement, la fondation fonctionne sur base d'environ 70 fonds du patrimoine. Qu'est-ce qu'un fonds du patrimoine? Eh bien, c'est un monsieur qui, à un moment très riche, n'a pas d'enfant, pas d'héritier, et est prêt à donner son argent à la fondation pour créer un fonds qui va notamment pouvoir financer des restaurations. Et donc ça, c'est extrêmement précieux. Alors, il y a des tas de fonds, c'est réservé à la restauration dans telle région, pour les musées de telle ville, selon le désir du fondateur. Mais grâce à ces fonds du patrimoine de la Fondation Rabaudouin, eh bien, on a une aide extrêmement précieuse. Alors, je dis, bon, c'est pas spécialement l'IRPA. L'IRPA fait le travail, mais ces fonds aident les propriétaires d'œuvres d'art pour toutes les restaurations aussi par des privés, donc pas uniquement par l'IRPA.
Est-ce que l'État, c'est difficile, enfin, est-ce que les différentes régions et au niveau fédéral, est-ce qu'il y a un budget pour les restaurations, pour la sauvegarde du patrimoine?
Alors,
mobilier, parlons-nous par les revenus mobiliers.
À l'échelon fédéral, en matière de patrimoine, il n'y a plus que, façon de parler, c'est comme le fleuron de la Belgique, ce sont les grands musées nationaux. Alors les musées ont leur propre budget, ou décident dans leur budget ce qu'ils vont affecter aux restaurations. Mais ces musées ont aussi besoin de l'aide des sponsors, et singulièrement de la Fondation Roi Baudouin. Pour le reste, ce sont alors les autorités communautaires ou régionales qui sont censées donner les crédits pour les restaurations. Alors, je dois être tout à fait honnête, en Wallonie, à la fin des années 1990, il y a eu vraiment un sursaut dans le domaine du patrimoine architectural, avec une augmentation extrêmement forte des budgets de restauration.
Alors justement, c'est intéressant. Parlons des monuments. Donc les monuments historiques monuments, en Wallonie sont plutôt bien traités.
Alors disons qu'il y a eu à ce moment-là vraiment une augmentation très nette qui a permis d'investir plus. Malheureusement, ces dernières années, la tendance va plutôt dans le sens contraire, de diminution des crédits. Donc les budgets ne sont évidemment, mais bon, je crois que ça c'est universel, ils ne sont jamais suffisants par rapport aux besoins énormes qui existent. Mais il faut reconnaître que depuis une vingtaine d'années, la Wallonie a fait un effort extrêmement important pour la restauration des monuments. Malheureusement, pour le mobilier, ça n'a pas suivi. C'est une autre entité fédérée qu'on appelle chez nous la Communauté française Fédération Wallonie-Bruxelles, qui, elle, n'a pratiquement pas de moyens. Ce sont des moyens extrêmement limités. Et donc, là, il n'y a pas vraiment de crédit important pour des restaurations.
Et pour les monuments et les objets en Flandre, est-ce que...
C'est un autre monde, si j'ose dire, où là, il y a vraiment... Il y a beaucoup plus de moyens. Mes collègues flamands se plaignent qu'il n'y en a jamais assez non plus, mais c'est sans commune mesure.
Il y a plus de moyens.
Absolument. Il y a eu un choix patrimonial beaucoup plus évident du côté flamand de considérer que le patrimoine était l'image de la Flandre. Et je pense que du côté francophone, on ne l'a pas défendu exactement de la même façon.
Alors parlons des musées maintenant. Vous avez parlé, donc il y a les musées fédéraux et il y a d'autres musées. Alors en gros, en France, on sait qu'il y a les musées des villes, les musées nationaux, il y a ce qu'on appelle les musées de France. Quelle est la structure des musées en Belgique ?
Voilà. Donc, comme je l'ai dit, on ne dira plus en Belgique, puisque...
Pardon, excusez-moi.
Donc, d'abord, au niveau fédéral. Alors, au niveau fédéral, il y a les grands musées fédéraux, les musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, les musées royaux d'art et d'histoire, le musée royal d'Afrique centrale à Tervuren, le muséum d'histoire naturelle, sont les quatre grands fleurons de l'État fédéral, la plus grande collection. Pour le reste, les musées dépendent des entités qu'on appelle les communautés. C'est elles qui ont la gestion, la responsabilité. Mais des musées, en Belgique, ce sont très souvent des musées communaux, et au départ, ce sont beaucoup des musées qui s'inscrivent dans la mouvance de sociétés savantes, on dit. C'est-à-dire ce sont des petites sociétés locales, d'érudits locaux, qui se trouvent à partir du 19e siècle, se sont groupés pour essayer de sauver un peu le patrimoine local. Et c'est comme ça que des petits musées qui sont parfois devenus très importants, je pense au Grand Cursus à Liège, qui est probablement le grand musée d'art de Wallonie, qui est né d'impulsion d'un regroupement d'individus cultivés au 19e siècle, qui ont créé l'Institut archéologique liégeois, qui est propriétaire d'un grand nombre des pièces de collection. Et puis alors la municipalité s'y est jointe et au début du XXe siècle, et c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est l'association entre la société d'histoire et d'archéologie locale et la municipalité. Maintenant, vous avez des musées en tout genre, mais je veux dire essentiellement comme beaucoup de musées municipaux.
Musées beaux et musées nationaux. Alors, on a parlé beaucoup sur la tribune de l'art, des musées royaux des Beaux-Arts, également des musées bicentenaire.
Musée du cinquantenaire.
Du cinquantenaire. Pourquoi je veux dire toujours que ça va être bicentenaire ? On a parlé beaucoup donc du musée du cinquantenaire. Mm-hmm. C'est des musées qui sont dans un état un peu dramatique, en particulièrement les musées royaux des Beaux-Arts, mais également le musée du cinquantenaire. J'ai publié des photos, des articles également de personnes qui ont écrit à Bruxelles. Moi-même, j'ai écrit. Il y a des fuites, il y a des choses qui sont pas... Des salles fermées depuis très longtemps. On a l'impression que le musée part quand même un petit peu en... En morceaux, c'était un petit peu exagéré, mais enfin, elle n'est pas en bon état.
Alors, il y a clairement un problème. La presse belge a encore relaté ces derniers jours le cas des seaux d'eau qui ont été replacés dans certaines salles du musée des Beaux-Arts de Bruxelles parce qu'il pleut dans les salles. Et là, c'est un gros problème pour toutes les institutions fédérales, et nous le connaissons aussi à l'IRPA, l'Institut du patrimoine artistique. Tous ces bâtiments dépendent de ce qu'on appelle chez nous la régie des bâtiments de l'État. Donc, en réalité, les musées, les institutions, les administrations qui occupent les bâtiments, ne sont jamais que les locataires. Le propriétaire, c'est une administration qu'on appelle la régie des bâtiments. Et c'est elle qui a la gestion du parc immobilier de l'État. Et cette régie, elle a sans arrêt vu ses crédits diminuer ces dernières années. Vous savez, dans la population, quand on dit qu'il faut diminuer les crédits alloués à la fonction publique, bon, ce débat, je l'entends aussi en France, eh bien, c'est un moyen très simple de dire on diminue les crédits alloués à la régie des bâtiments de l'État qui gère des bâtiments occupés par les fonctionnaires. Mais ça veut dire aussi les prisons, ça veut dire aussi les musées. Et donc le problème, c'est que il faut des moyens absolument colossaux pour remettre en état, singulièrement les deux musées que vous avez cités, Musée des Beaux-Arts et Musée Royal d'Art et d'Histoire au cinquantenaire. Et là, ça dépasse très largement le cadre de la politique de la direction du musée, qui peut faire tous les projets qu'elle veut. Si à un moment donné, la régie des bâtiments de l'État n'intervient pas, le directeur, passez-moi l'expression, peut danser sur sa tête.
Alors, ce qui dépend du directeur des Musées Royaux des Beaux-Arts, c'est le fait d'avoir mis en caisse la collection d'art moderne. Et moi, j'étais très surpris de constater que le musée Pompidou s'associe avec la région Bruxelles. Alors, vous allez me dire, la région Bruxelles, ça n'est pas les musées royaux.
Absolument.
Mais on va créer, à partir des collections du musée de Beaubourg, une collection d'art moderne, alors qu'il y a une collection d'art moderne qui est en caisse à Bruxelles. Moi, ça me paraît être une politique de gribouille, mais bon.
Il y a eu un choix dans la politique de directeur du musée des Beaux-Arts de privilégier ce qu'on appelait le fin de siècle. Donc là,
le fin de siècle, on en avait parlé.
Voilà, et donc fatalement, il fallait de l'espace pour développer ce musée. Ça s'est fait au détriment des espaces dévolus à l'art moderne. Ce musée est extrêmement riche et donc on n'avait pas de locaux disponibles. Il faut savoir aussi qu'il y a encore des tas de salles qui sont fermées.
C'est ça le problème.
Parce qu'elles sont en
mauvais état. Il y a des
salles
fermées.
Et
en
là,
fait,
nouveau, si la régie des bâtiments n'intervient pas. Et donc après, il y a des choix. Il y a des choix qui ont été faits. Effectivement, ça, on peut les discuter. Et en Belgique, il y a eu un sacré tollé quand on a fermé le musée d'art moderne pour privilégier un musée fin de siècle. Voilà, c'est un choix. Ce qui est un peu surprenant, c'est que, en principe, ces choix doivent être validés par le politique et qu'à l'époque, la ministre de tutelle a dit c'est de la responsabilité de l'autonomie du musée. Donc en clair, quand le musée doit engager deux femmes d'ouvrage à mi-temps pendant 6 mois, il doit avoir l'autorisation ministérielle, mais pour changer totalement la disposition des collections, ça...
Et puis il y a quand même un coût, alors est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt mettre cet argent dans la restauration, même si ce n'est pas le rôle du musée peut-être, mais plutôt que de faire des coûts aussi importants, est-ce qu'on ne va pas d'abord s'occuper du bâtiment? Enfin, il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas. Hein.
Ah ça, mais ça, on est bien d'accord. Mais le musée, comme les autres administrations fédérales, est évidemment prisonnier de cette fameuse décision de la régie des bâtiments de l'État.
Vous avez publié sur la Tribune de l'Art un article qui était sur les récupérations d'œuvres d'art. Ah. On a vu ces derniers temps, bizarrement, des politiques qui, globalement, comme les nôtres, s'intéressent pas beaucoup au patrimoine, mais tout d'un coup, ils découvrent un amour pour le patrimoine en voulant récupérer des tableaux qui sont dans les musées français, qui, effectivement, ont été pillés par les armées napoléoniennes. Mais, vous savez, je crois que nous sommes à peu près d'accord sur la même idée tous les deux, c'est-à-dire que l'histoire est l'histoire. Donc, on vous a demandé un rapport.
Alors, oui.
Ça serait intéressant que vous nous rappeliez cela. Et quel est le destin de ce rapport? Vous avez fait un rapport à la ministre, je crois.
Absolument. Donc, ce qui se passe, c'est que depuis 20-25 ans, il y a de plus en plus de questions parlementaires d'interpellation des ministres, des différents ministres dans les différentes entités, que vous expliquiez tout à l'heure. Donc c'est aussi bien les ministres de la Culture, de la Communauté française, de la Communauté française, et au fédéral. Il y a des parlementaires qui effectivement disent « Oui, mais enfin, c'est absolument scandaleux ce qui s'est passé à l'époque révolutionnaire où les Français ont pillé allègrement nos églises. » Et demandant des interventions de la Belgique auprès de la République française pour récupérer ces objets. Et il y a eu même effectivement des interventions du ministère belge des Affaires étrangères, il y a 4-5 ans, pour récupérer un tableau de Rubens qui est au musée des Beaux-Arts de Nantes et qui provient de la cathédrale de Tournai. Pourquoi celui-là et pas d'autres? Il y en a quand même 200 qui sont encore.
Il y a aussi un tableau d'Antoine Flémal, on reviendra sur Antoine
Flémal
plus tard, qui
clair,
est au musée de Toulouse.
Voilà, le conservateur du trésor de la cathédrale de Liège ne démord pas, décide de récupérer ce tableau, en tout le moins en dépôt. C'est un tableau qui ornait le maître-autel de l'église Saint-Paul à Liège, aujourd'hui cathédrale, et il aimerait avoir un dépôt à long terme de ce tableau. Bien. Les ministres successifs qui se sont trouvés ont tous été un peu embarrassés, ne sachant que répondre par rapport à cette question. Et je rends hommage à la secrétaire d'État Elke Slöers, qui est l'actuelle responsable en charge de la politique scientifique fédérale et donc des établissements scientifiques fédéraux, dont les grands musées, qui a été la première à dire, avant de répondre, passez-moi l'expression, n'importe quoi, aux parlementaires, je vais consulter. Et elle a réuni une petite commission d'experts pour un peu l'éclairer. Et c'est dans le cadre de cette commission qu'on m'a demandé un rapport. Mais que s'est-il passé concrètement en 1794, quand les troupes françaises ont envahi le territoire de ce qu'allait devenir la Belgique? Et je vous reprends, cher Didier, vous avez dit les pillages napoléoniens. Chez nous, ça n'a rien à voir avec Napoléon. Très souvent, d'ailleurs, dans les interviews, on dit oui, les pillages napoléoniens. Pas du tout. Tout s'est passé, nous, en très peu de temps. Tout s'est passé en 8 mois entre la bataille de Fleurus et le début de l'année 1795, c'est-à-dire bien avant Napoléon.
Autant
Napoléon,
pour moi.
Napoléon, c'est en Italie et en Allemagne, évidemment.
Bien sûr.
Mais chez nous, en Belgique, Napoléon n'a rien à voir avec ça. Et les récupérations, il n'y a pas eu de récupération, il n'y a pas eu de restitution, contrairement à ce qu'on dit. Les reprises, donc en 1815, on a volé aux Français ce qu'ils nous avaient volé 20 ans plus tôt. Et ces reprises ont eu lieu après Waterloo et après la chute de l'Empire. Donc, en tout cas, pour ce qui concerne la Belgique, Napoléon n'y est pour rien. Et donc, effectivement, voilà, j'ai écrit ce rapport pour dire ce qui s'est passé. Et arrivé à cette conclusion, et je sais effectivement que nous sommes d'accord l'un et l'autre, qu'on ne peut pas réécrire l'histoire, et moi je résume les choses par un arrêt que j'ai lu du tribunal administratif de Paris en 2009 dans l'affaire des fameux manuscrits coréens, et qui dit, et je le dis de manière résumée, jusqu'au XXe siècle, le pillage des œuvres d'art n'était pas contraire au droit international. Une fois qu'on a dit ça, on comprend qu'on ne peut pas voir les choses à l'aune des prescriptions actuelles de l'UNESCO, des conventions. Voilà, nous étions dans une autre époque. Alors, cela dit, j'ai toujours des regrets que certains tableaux soient... Bon, mais
en même temps, le musée de Bruxelles a beaucoup de tableaux français qui ont été déposés, parce que le musée de Bruxelles était un musée français à l'époque.
Absolument. Et donc, c'est une des raisons évoquées par Dominique Vivant-Denon et par Talleyrand, lorsque les Alliés exigeaient le retour des tableaux en Belgique en 1815, elle a dit, mais nous vous avons donné une compensation en donnant, il y a eu un total de 69 tableaux en 2 envois au musée des Beaux-Arts de Bruxelles. Et c'est ce que j'expliquais dans le rapport que j'ai adressé à la ministre et qui a été effectivement publié sur la Tribune de l'Art, c'est qu'en mars 1818, il y a eu un accord tacite, malheureusement, donc il n'y a pas de signature, il n'y a pas de trace, entre le représentant du roi des Pays-Bas et le représentant du gouvernement français pour dire chacun en reste là de ses réclamations. Parce que le roi Louis XVIII a voulu lui aussi récupérer parmi les tableaux envoyés à Bruxelles ceux qui venaient de la couronne. Et évidemment, il devait reconstituer les collections royales. Et il a dit, mais vous devez nous rendre cela. Et donc chacun réclamant sa part, on a convenu qu'on en restait là. Bruxelles gardait les tableaux envoyés au musée en 1802, en 1811, et la France gardant les tableaux qui avaient été spoliés en 1794.
Et est-ce que cette conclusion qui est sage est partagée maintenant par tous, ou est-ce que vous pensez que c'est une chose qui va revenir à nouveau sur le...
Je pense que, voilà, moi j'ai fait un rapport, je dis ce que je pensais.
Et la ministre a dit.
Elle a apprécié ce rapport, puisque, en plus, alors j'ai aussi expliqué dans ce rapport que ce qui était dommage du point de vue scientifique, mais là c'est l'historien d'art qui parle, c'est qu'on n'a pas d'inventaire précis de ce qui a été spolié. On a des inventaires partiels, et donc la ministre m'a demandé de dresser en 2 ans un inventaire de tous les tableaux et sculptures qui ont été saisies en Belgique en 1794-1795. Et je sais, par expérience, vous l'avez dit tout à l'heure, moi j'ai beaucoup travaillé sur les peintres de la principauté de Liège, en examinant les listes de saisies révolutionnaires, il y a beaucoup d'erreurs, ce qui m'a permis de retrouver notamment les tableaux de Berthollet Flemal, qui étaient sous d'autres noms, disparus, et qui ont été spoliés à l'époque révolutionnaire.
Alors nous allons venir maintenant à la peinture liégeoise, mais avant... Je sais que ça vous agace un peu, peut-être. Enfin, vous êtes un peu comme si vous seriez un chanteur, c'est votre tube. C'est la redécouverte
de la mort de la Vierge,
Nicolas Poussin. Mais c'est un peu un rapport avec ce qu'on a dit juste avant, puisque c'est un tableau qui avait été déposé par les musées français, qui vient de Notre-Dame, déposé au musée de Bruxelles et qui est ensuite déposé dans une église. Donc, ce tableau, je le rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, c'est le tableau de la mort de la Vierge, un des premiers tableaux de Nicolas Poussin, qui était réputé disparu, qu'on connaissait par une aquarelle ou une gouache, et on savait que ce tableau avait existé. C'est vous qui l'avez retrouvé dans une église proche de Bruxelles. Nous sommes allés d'ailleurs ensemble pour le voir avant qu'il ne vienne pour l'exposition Poussin et Dieu.
Tout à fait. Alors, c'était un peu la conclusion d'un long jeu de pistes. Moi, quand j'ai fait des conférences sur la redécouverte de ce tableau, parce qu'on a vraiment eu des éléments petit à petit, notamment un catalogue de Un guide de visite du XVIIIe siècle de la cathédrale de Paris, annoté par Gabriel de Saint-Aubin, qui faisait ses fameux petits dessins.
Oui, ok, c'est ça. Donc, permet, on a la composition
voilà,
grâce
ça, on a pu. Anthony Bund a fait le rapport avec cette aquarelle conservée dans une collection privée anglaise. Parallèlement, Tully a découvert, contrairement à ce qu'on pensait, il a découvert, mais assez tardivement, seulement au milieu du XXe siècle, que le tableau de Poussin n'était pas resté en France, n'avait pas disparu, mais avait fait partie des envois à Bruxelles en 1802. On garde sa trace jusqu'en 1815 environ dans les catalogues du musée, puis il disparaît. Et effectivement, donc je l'ai trouvé dans une petite église près de Bruxelles, on ne sait pas comment il y est arrivé. Je pense que le tableau était considéré comme sans intérêt, parce que dans les catalogues du musée de Bruxelles, il a très vite été considéré comme une copie. Fatalement, c'est un Poussin tout à fait atypique, puisque c'était, jusqu'il y a peu, le seul tableau de Poussin connu antérieur au voyage à Rome. Donc c'est un tableau de 1623 apparemment, donc avant que Poussin découvre l'Italie, donc c'est Poussin avant Poussin, c'est comme ça que j'ai intitulé l'article que j'ai publié.
Donc, et d'ailleurs, il y a un article sur le Tribunal de l'Art que vous m'avez envoyé qui résume cette découverte.
Absolument, oui, qui avait été publié en néerlandais, voilà. Nîmes, parce que le tableau est dans une église flamande, donc il y a eu un dossier dans une revue patrimoine en Flandre, et donc tout a été publié en néerlandais, et j'ai publié en version française sur la Tribune de l'Art, autour de la découverte de ce tableau. Et donc c'est vrai que oui, bien sûr, c'est un moment extrêmement fort. Alors, et en même temps, oui, c'est aussi ma passion pour Poussin et pour le Poussin liégeois que fut Berthollet Flemmal.
Voilà, donc, nous y arrivons.
Connaissance de Nicolas
Poussin. Nous y arrivons. Donc vous êtes spécialiste des peintres liégeois, vous avez publié de nombreux articles dont vous avez eu le gentil de me donner quelques exemplaires sur des peintres liégeois, mais votre grand héros, c'est Berthollet Flemmal. Alors j'ai entre les mains de ce livre, alors je dois le dire que je l'ai lu et que ça fait partie de ces actes manqués, l'actualité étant tellement importante, je l'ai lu avec plaisir, c'était il y a un an et demi pendant les vacances, et je l'avais emporté avec moi, je l'ai même lu en Espagne en partie. Et très excellent livre, comme tous les livres que publie Athéna, ou pratiquement tous les livres que publie Athéna. Et malheureusement, je n'ai pas fait d'article, je m'en suis voulu. Et c'est une occasion de réparer cette absence d'article que de vous recevoir et de parler un petit peu de Berthollet Flemmal. Alors, ce livre vient d'avoir un prix, je crois, le prix de l'Académie française.
Le prix Jacques Carrière de l'Académie française.
Donc, un prix. Vous êtes reconnu pour en France pour un artiste liégeois, et pourtant on ne connaît pas bien les artistes liégeois. Dites-nous un mot quand même de cette école liégeoise qui est passionnante. Il y a beaucoup d'artistes qui souvent sont proches des Français. Dites-nous un peu ce que c'est que cette école liégeoise.
Donc un petit rappel d'abord historique. Jusqu'en 1795 et l'annexion par la France, la principauté de Liège était tout à fait indépendante de ce qu'on appelait les Pays-Bas méridionaux, au 18e Pays-Bas autrichien, et donc ce qui constitue aujourd'hui l'ensemble de la Belgique. Donc jusqu'en 1795, les Liégeois n'avaient rien à voir avec la Belgique. Un historien de l'Université de Bruxelles a publié il y a quelques années un article intitulé « Quand les Liégeois sont-ils devenus Belges ?» Les méchantes langues répondant jamais. Et donc il y a effectivement un particularisme, il y a un particularisme politique, puisque cette principauté de Liège était une principauté d'empire, elle faisait partie du Saint-Empire romain germanique, c'était l'une des 300 et des principautés du Saint-Empire, donc tout à fait indépendante des Pays-Bas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au XVIIe siècle, il y a une école locale tout à fait spécifique, qui elle-même est aussi indépendante du grand courant à la mode, pour faire court le courant rubénien, dans les Pays-Bas. Donc Rubens a une telle aura qu'on fait du Rubens partout. À Liège, on est à 120 km d'Anvers, et on a une orientation très différente. Cette orientation, elle naît d'abord avec un peintre qui m'est très cher aussi au départ, celui auquel j'ai consacré mon mémoire de maîtrise, qui s'appelle Gérard Douffet, qui est un caravagesque. Il rentre d'Italie au début des années 1620, il révolutionne la peinture à Liège parce qu'il revient avec les courants à la mode d'Italie. Il a peu d'élèves, contrairement à ce qu'on a dit, il a notamment ce Berthollet Flemmal qu'il forme, et puis qui se rend, lui, à Rome à son tour vers 1640, et il découvre manifestement là l'art de Poussin et ses disciples. Il a été, à mon avis, très proche de toute cette sphère poussinienne à Rome. Et il revient à Liège, après un passage par Paris où il fait des œuvres extrêmement importantes, il revient, il va dominer là tout le marché liégeois au milieu du XVIIe siècle.
Alors à Paris, il faut signaler la coupole de l'église Saint-Joseph des Carmes, qui est, je crois, la première coupole peinte à Paris, et une des rares coupoles conservées.
Exactement. Où je démontre dans mon ouvrage, parce qu'il y a des problèmes sur l'attribution. On l'a attribué à deux peintres.
Walter Damery. Alors qui Walter Damery?
Damery, c'est le grand rival de Bertole Flemal. C'est un peintre qui a travaillé dans une veine plus italienne à la Pierre de Cortone. C'était le grand rival de Bertole Flemal. Mais je démontre dans cet ouvrage qu'ils ont peint ensemble la coupole de l'église des Carmes rue de Vaugirard. Donc il y avait deux traditions qui disaient soit l'un soit l'autre, et moi je démontre dans mon livre qu'ils ont collaboré à cette réalisation. Alors c'est quand même extraordinaire, voilà deux jeunes peintres très peu connus qui reviennent d'Italie, sur le chemin du retour vers Liège, ils s'arrêtent à Paris et ils se voient commander la première coupole qui était peinte à Paris en ce temps. Bertole Flemal est appelé à travailler sur le chantier de l'hôtel Lambert, qui est ce qu'on appelle le laboratoire de Latticini, un chantier extrêmement important. Donc ces jeunes peintres inconnus, avant même de rentrer dans leur pays, bénéficient manifestement d'une renommée. Alors je ne vais pas entrer dans les détails, mais je crois qu'il faut voir aussi le rôle là d'un personnage extrêmement important sur lequel il y aurait beaucoup à dire et qui devrait être encore un peu mieux étudié aussi, qui s'appelle Jean Valdor. Jean Valdor, c'était, on dit un graveur, mais il n'a pratiquement jamais gravé. Mais c'était surtout, il avait le statut d'ambassadeur du prince-évêque de Liège auprès de la cour de France. C'est lui qui a présenté Lebrun à la cour de France. Et on voit que ce garçon avait un rôle extrême, il avait un réseau de relations énorme. C'était un grand entrepreneur, c'est comme lui qui a créé la manufacture de Mincy. C'est lui qui est un des principaux fondateurs de la manufacture des Gobelins. Ça, je l'ai retrouvé dans une lettre qu'il a écrite et qui est conservée à Liège, où il dit lui-même qu'il est en train de créer une manufacture pour le roi. Et donc ce personnage, manifestement, il aidait aussi ses compatriotes, et je pense qu'il les a aidés pour obtenir des chantiers après. Et Flemal a travaillé beaucoup plus à Paris qu'on le pensait jusqu'à présent. J'ai retrouvé des traces de séjours qu'il a effectués à Paris qu'on ne connaissait pas antérieurement.
Alors dans ce livre, vous vous efforcez, vous y réussissez d'ailleurs assez bien, même très bien, à faire la part des tableaux authentiques de Flemal, parce qu'on a tendance souvent à donner à Flemal tout tableau liégeois qu'on ne sait pas attribuer. C'est un peu ça.
Difficulté. Alors c'est évident. Alors ça, c'est évidemment la richesse de la collection d'Arthéna, où on a vraiment un catalogue raisonné avec les œuvres attribuées, disparues, etc. Alors ça a été complexe. D'ailleurs, j'ai essuyé quelques critiques, comme il se doit dans ce cas-là, parce que j'ai essayé de serrer, j'ai éliminé certains tableaux. En toute bonne foi, mon âme et conscience, mais ce n'est jamais que mon avis, pour un peu nettoyer ce catalogue de Flemal et en rester vraiment à l'essentiel. Par exemple, dans les œuvres que j'ai exclues, ça m'a permis de trouver le noyau de base de l'œuvre d'un élève de Flemal, dont on ne connaissait que les œuvres tardives. Et moi, j'ai pu reconstituer.
Alors, rappelez-moi, parce qu'il y a Jean-Gilles dans les élèves, il y a Jean-Gilles Delcourt aussi. Alors, il y a Carlier.
Je parle d'ici, c'est Englebert-Fizaine.
Englebert-Fizaine.
J'ai pu retrouver tout le noyau de son catalogue dans les exclus de Bertole Flemal. Ces tableaux étaient considérés comme trop bons pour être de ce peintre un peu secondaire. Alors qu'Henri X, c'est vraiment tout le début de sa carrière, au moment où il s'inspire le plus de Bertole Flemal, qui a eu un impact considérable, ne serait-ce que par Gérard de Lairès. On oublie, alors c'est assez amusant.
Gérard de Lairès qui a bénéficié d'une autre monographie Arthéna il y a quelques années.
Absolument, en 1992, le professeur Alain Rouen a publié un livre absolument remarquable avec tout le catalogue de l'œuvre de Lairès, qui est couronné 24 ans après par une exposition qui a lieu pour le moment à Enschede.
Oui, c'est vrai, puisque les tableaux du musée d'Orléans étaient envoyés effectivement à cette exposition.
Il y a une exposition en ce moment dans l'est de la Hollande, une exposition importante consacrée à Gérard de Lairès. Le sous-titre de cette exposition, c'est « Le peintre hollandais le plus important après Rembrandt ». On redécouvre enfin Lairès, parce que l'érudition hollandaise l'a très longtemps négligé, parce que c'est un peintre qui est un peu en dehors du schéma traditionnel de l'école hollandaise, de Rembrandt, de Vermeer.
Mais ils le mettent quand même dans l'école hollandaise, aussi... ça ne vous gêne alors, pas ça qu'on le mette dans l'école hollandaise alors qu'il
non, est... ce qui est très amusant, c'est que maintenant ils en sont à nier aussi son origine liégeoise, en disant, moi j'ai lu des articles d'historiens d'art hollandais disant, oui quand il est arrivé à Amsterdam, Lairès s'il ne savait pas peindre, il a tout appris chez nous. Alors que, et on le voit bien dans le livre d'Alain Roy, il n'est pas toujours simple de différencier les œuvres faites dans sa période liégeoise ou au début de sa période hollandaise. Donc en réalité, que s'est-il passé? Lairès a vraiment repris toute l'orientation académique de Bertole Flemal. Il s'est exilé en Hollande en 1664 pour une sombre histoire de femme. Il a dû s'expatrier parce qu'il était poursuivi par la justice dans son pays. Hein. C'est comme ça que le plus grand peintre liégeois est devenu un des grands peintres hollandais. Et il a, à Amsterdam, développé tout ce courant classicisant qui était complètement en rupture. Alors, pas tout à fait complètement, c'est ce que les historiens hollandais essayent de nous dire, parce qu'il y avait un vague courant classicisant avec Van Baylert, etc., qui subsistait en Hollande, mais ici, c'est un art très français qui vit à Liège, s'impose en Hollande. Contrairement à ce que certains érudits hollandais essayent de dire, c'est un art qui reste pleinement liégeois.
Alors, bien que vous étudiez et vous aimiez forcément Berthe Lefebvre, de temps en temps, vous êtes un peu sévère avec l'artiste. Vous dites
J'essaye
que...
de voilà, effectivement, on m'a aussi reproché parfois d'être un peu sévère. J'essaye de garder. J'essaye
Parce que
de.
ces chefs-d'œuvre sont vraiment des chefs-d'œuvre.
Oui,
et
enfin,
c'est vrai qu'il est parfois un peu inégal, peut-être, c'est ça?
voilà, je n'oublie pas que Flemma n'est pas Poussin. Et donc, ça, c'est resté. Il y a des tableaux que je trouve absolument merveilleux, mais il y a aussi beaucoup de petits défauts. Par exemple, un des chefs-d'œuvre, le tableau d'Orléans, qui est reproduit en couverture du livre, qui est une.
C'est un tableau
Est ancien.
fragmentaire, je ne sais plus
Oui, c'est
où
ça.
ça, il est un
Il a
peu
été
coupé.
découpé et j'ai la
Voilà.
chance de retrouver une copie qui montre la
Oui,
composition
c'est
dans sa
ça.
totalité. Mais le tableau, d'ailleurs, c'est amusant, qui était à l'origine attribué à Gérard Dufay, c'est quand il a été nettoyé qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, il y avait beaucoup moins de clair-obscur à la manière de Dufay et que c'était vraiment un tableau de Flémalle. Mais autant il est fantastique, et vous regardez certains détails, eh bien, on voit que tout n'a pas été remarquablement
Mais
dessiné.
ce tableau, qui est effectivement un des chefs-d'œuvre de Flémalle, un chef-d'œuvre de la peinture, un des chefs-d'œuvre du musée d'Orléans, il faut savoir qu'il était en réserve encore il y a quelques temps, et c'est ce que j'ai écrit, il a été sorti des réserves grâce à l'arrivée au musée de Livoire voisin, et il faut savoir que la conservatrice précédente, en dehors d'avoir mis beaucoup beaucoup d'œuvres en réserve, avait mis ce Berthelet Flemal en réserve, ce qui est absolument incroyable.
Je ne vous le fais pas dire, je suis passé à Orléans il y a 2 ans. Alors, c'était j'avais pas eu l'occasion de prendre rendez-vous, donc je passais. Et donc, bon, je l'avais déjà vu exposer ce tableau. Je n'imaginais pas qu'un tel tableau puisse être en réserve. J'ai
Non,
fait tous les
personne
mesures trouvées.
n'imagine ça,
Et
sauf
donc,
eux.
voilà, donc j'étais un peu fâché de
Il est
passer à
maintenant à la
Orléans
place
aussi.
d'honneur dans... Vous n'êtes pas revenu depuis?
Alors, je suis retourné à
Eh
Orléans
bien,
depuis 2 ans,
le
mais
tableau était...
j'espère qu'il est sorti des
Ah
réserves.
ben, le tableau était sorti des réserves, je peux vous le confirmer, et c'est effectivement un des chefs-d'œuvre. Malheureusement, on sent la tête de la Vierge, puisque il a la tête coupée, mais c'est un tableau qui est magnifique et qui tient extrêmement bien par rapport à tous les chefs-d'œuvre que possède Orléans. Donc, dans les élèves, on a parlé de... J'ai découvert aussi le frère de Jean Delcourt. Il y avait une exposition à un grand sculpteur qui
Oui,
est Jean Delcourt, et son frère
Jean-Gilles.
Jean-Gilles Descourts, donc qui était également peintre.
Oui, tout à fait.
Tous
Donc,
ces artistes, vous avez prévu de faire leur catalogue de manière un peu plus exhaustive.
j'ai le catalogue raisonné de chacun de ces artistes, mais il faut trouver des éditeurs qui soient disponibles parce que ce ne sont pas évidemment les œuvres
Vous pouvez
majeures.
publier sur la tribune de l'art, elle vous est ouverte, bien entendu.
Pour un catalogue critique et raisonné avec tout le.
Pourquoi
Enfin,
pas?
bon, oui, bon,
Pourquoi pas? Parce qu'on va
peut-être
publier bientôt, grâce
des
à... On
possibilités.
va bientôt publier le catalogue, je réserve, enfin, je ne dis pas le nom, mais d'un peintre du 19e religieux, un catalogue important, grâce à un historien d'art qui nous fait confiance et qui va nous donner ce catalogue. Ça sera bientôt en ligne sur la tribune de l'art, sous format PDF. Et finalement, parfois, il est peut-être pas mal de pouvoir publier sur Internet. Ça aura plus de lecteurs que si vous le publiez dans une
Alors,
petite revue.
j'avais effectivement, au moment de l'exposition Delcourt en 2007, sur Jean Delcourt, grand sculpteur baroque liégeois, j'avais proposé à l'un ou l'autre éditeur de faire une monographie sur Jean-Gilles Delcourt, dont on ne connaît pas beaucoup de tableaux, en fait,
C'est pour ça
mais
que c'est
qui sont
facile, en
totalement
plus.
inconnus. Ils sont totalement inconnus. Et à nouveau, le chef-d'œuvre de Jean-Gilles Delcourt, je l'ai retrouvé dans les œuvres que j'excluais du catalogue de Flémalle. À
Alors, en
nouveau,
plus,
c'est.
ça sera facile, puisque vous avez dit que les droits photos, enfin, les photos étaient librement accessibles, je veux dire, pas.
Ah, oui, mais enfin, tout n'est pas en photolire par les tableaux de collection privée,
Oui,
c'est pas toujours
effectivement.
LIRPA aussi, mais bien tout ce qui est
Voilà.
sur le
Ceci,
site de LIRPA,
si vous
c'est plus
publiez,
ça
ça va être plus facile, parce que
aussi.
LIRPA, alors justement, je voulais revenir sur ces photos, parce que donc l'ouvrage est très richement illustré, évidemment, comme tous les ouvrages Arténa. Il y a évidemment beaucoup de photos, je pense, qui viennent de LIRPA.
Oui.
Vous disiez qu'elles étaient donc téléchargeables, mais elles ne sont pas utilisables sans payer, ou
Ah non, non,
elles
si,
sont
elles sont utilisables.
entièrement utilisables, mais...
Alors, il y a 2 conditions. C'est bien marqué le copyright IRPA lorsqu'on
Oui.
produit la photo et envoyer un exemplaire justificatif à notre
D'accord.
bibliothèque. Que vous reproduisiez une photo ou 100 photos, on demande
D'accord.
un seul volume justificatif. Et pour le
D'accord.
reste, il n'y a pas de droit à
Il n'y a pas de
payer
droit...
tant qu'on reste dans du non commercial. Et nous l'entendons au sens
Au sens
large. La
large, d'accord.
publication est
Arténa n'est pas
là,
commercial,
évidemment,
d'accord.
bien sûr que non.
Parce que le non
Une
commercial,
publication.
c'est difficile. Un site internet, par exemple, peut publier le catalogue et il peut avoir également des revenus parce qu'il faut qu'il vive. C'est pas vraiment commercial, c'est
Non,
commercial
bah
dans les
bien
temps.
sûr, voilà. Donc, dès que c'est à vocation scientifique et culturelle, nous avons une acception très large. Mais si vous faites des t-shirts avec Berthelet Flemmard, il y
Pourquoi
aura
pas?
des droits
Pourquoi
à
pas?
payer.
Pourquoi pas? Donc, Est-ce qu'il y a d'autres sujets? On a parlé, à mon avis, trop rapidement de la Belgique, parce que c'est tellement compliqué, mais il faudra vraiment, ce serait intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs, et j'espère d'auditeurs, de la Tribune de l'Heure en Belgique. C'est dommage de ne pas pouvoir en parler suffisamment, parce que c'est quand même tellement proche de la France, aussi bien culturellement que géographiquement. On aimerait en parler plus souvent, et c'est un peu inquiétant tout ce que vous me dites sur la Belgique et sur le manque de protection.
Mais alors, beaucoup de personnes se battent aussi. C'est clair que tout à l'heure, on classait des objets seulement depuis 2010, mais moi, je dois d'abord me réjouir que maintenant, on le fait, et que donc, ça donne une protection supplémentaire. En ce compris, alors ça, c'est une grande différence avec la France, des œuvres qui sont dans les musées. Donc, les objets classés, ce que vous appelez, vous, objets classés, monuments historiques, en Belgique, on appelle ça, ce sont des trésors nationaux, en fait, c'est la législation européenne de 1992. Hein. Donc, ces trésors, ça reprend aussi chez nous des objets de musée, qui veut dire qu'il y a maintenant un échelon supplémentaire de contrôle sur les mouvements des œuvres d'art. On connaît, je ne veux pas citer de cas précis, mais on en connaît malheureusement pas mal en Belgique, de conservateurs de musées qui prêtent sans arrêt les mêmes tableaux. Pour pouvoir évidemment obtenir des échanges. Je les comprends, évidemment, ils veulent faire des expositions, mais on fait voyager sans arrêt des œuvres importantes au mépris de leur bonne conservation. Et donc maintenant, quand l'objet est classé, il faut l'autorisation du ministre de la Culture. Et donc il y a un échelon de protection supplémentaire. Donc on progresse quand même, hein. Je ne
Parce
veux pas
qu'en
être entièrement négatif.
en France, toutes les œuvres des musées sont réputées comme trésors nationaux, en fait. Hein,
Absolument, mais ce n'est pas le cas, c'est pas le cas en Belgique. Donc il faut un classement spécifique. Alors j'ai peur de l'effet pervers, parce que j'ai eu un jour un parlementaire qui m'a dit, mais monsieur Kéry, si on classe les œuvres dans les musées, ça veut dire celles qui ne sont pas classées, on peut peut-être les vendre.
Exactement, c'est ça.
Et or, le principe d'inaliénabilité qui est fondamental chez vous, il n'existe pas légalement en Belgique. On vit dans cette illusion. Moi, je m'en suis rendu compte avec la polémique qui a entouré la vente envisagée de la famille solaire de Picasso en 1989-90 à
Liège.
Liège. C'est le chef-d'œuvre du musée d'art moderne de Liège, c'est le plus grand tableau de la période bleue de Picasso. Et donc il était question de le vendre parce que la ville était en faillite. Et donc on s'est rendu compte à ce moment-là qu'un simple vote du conseil municipal suffisait à décréter que le tableau pouvait être vendu. Alors il y a une mobilisation énorme. Avec des appuis étrangers, je remercie encore Michel Laclotte, qui était le directeur du musée du Louvre, qui est venu donner une conférence à Liège dans le cadre de cette polémique pour expliquer en quoi aussi pourquoi un musée ne pouvait pas vendre ses collections. Et effectivement, depuis lors, moi, je suis devenu un acharné de l'inaliénabilité.
Mais il n'y a pas eu de vente du tout en Belgique ces dernières années?
Il y en a dans des petits musées. Il y a eu le cas,
quand même.
Un musée, je me souviens, dans les années 1980, la petite ville de Huy, la bourgmestre de l'époque, pour se faire mousser, a voulu acheter une vue soi-disant de Huy du XVIIe siècle, et a vendu 15 tableaux des réserves pour payer ce nouveau tableau. Alors, ce qui est amusant, si j'ose dire, un spécialiste m'a dit aujourd'hui, la valeur des 15 tableaux vendus est clairement supérieure à la valeur du tableau acheté. Donc, ce n'était même pas une gestion en bon père de famille, si ce n'est pas l'élément qui m'intéresse le plus dans la question. Mais ça montre que ce n'était même pas de la bonne gestion.
Une pierre de plus dans les tenants de l'inaliénabilité, ou de l'aliénabilité plutôt des œuvres d'art qui prétendent qu'on pourrait comme ça enrichir les musées, qu'on pourrait. Alors que tout démontre l'inverse. On prenait l'exemple au même micro de Nathalie Bondil au Musée des Beaux-Arts de Montréal, un tableau vendu qui avait été vendu il y a quelques années par le Musée des Beaux-Arts de Montréal, qui maintenant est prêté lors de l'ouverture d'une nouvelle aile, d'un tableau ancien qui est prêté de l'atelier de Vasari, qui est prêté au musée parce qu'on considère qu'il est important pour le musée. Donc, vous voyez, ce genre de choses est incroyable. Est-ce que vous avez des expositions que vous avez vues récemment ou des livres que vous avez lus récemment dont vous aimeriez parler à ce micro?
Alors, les expositions, évidemment, quand je suis à Paris, ben, je fais le tour. Donc, je sors de l'exposition de collection Tessin, que j'ai
Superbe.
Trouvé absolument remarquable. J'étais vraiment ébloui. Alors, je voudrais quand même parler d'une exposition qui a lieu à Liège pour le moment, qui a beaucoup de succès et qui a eu des échos aussi en France, et je crois d'ailleurs qu'elle viendra par la suite au musée Mayol. C'est une exposition autour du livre d'Anne Sinclair, 21 rue de la Boétie, une exposition sur le marchand d'art Paul Rosenberg, et qui est absolument remarquable. Donc cette exposition
qui était de la
est très
famille,
belle
donc,
aussi, c'est le grand-père d'Anne Sinclair,
grand-père d'Anne Sinclair,
et qui a écrit un livre donc, intitulé 21 rue de la Boétie, qui raconte toute l'histoire de ce marchand juif qui a dû s'exiler aux États-Unis pendant la guerre. Et cette exposition, je suis parfois très critique avec les expositions à Liège, mais là j'ai vraiment été ébloui. Il y a une scénographie qui est tout à fait remarquable avec de très bonnes explications pour comprendre tout ce contexte du marché de l'art dans l'entre-deux-guerres.
Pour conclure, Pierre-Yves Kéris, j'aimerais que vous nous parliez de vos projets, puisque vous avez donc publié ce livre dont on a beaucoup parlé, donc de Bertrand Desflemmalle. Mais la peinture liégeoise, ce n'est pas que ça, et peut-être que même la peinture en Belgique, ce n'est pas uniquement Bertrand Desflemmalle.
Alors, vous avez dit tout à l'heure que je me suis spécialisé dans la peinture liégeoise. En réalité, ça a été un peu le point de départ. En histoire de l'art, souvent les hasards qui vous mènent dans tel ou tel type de carrière. Je me suis rendu compte que lorsqu'on parle de peinture ancienne en Belgique, essentiellement en période, bon, c'est de la fin du XVIe à la fin du XVIIIe siècle, mais par nature, tout le monde considère que la peinture, elle est flamande. On parlait de peinture belge pour l'époque, ça on dit peinture flamande. Du coup, je me rends compte, lorsqu'on regarde le territoire de la Wallonie, à peu près personne ne s'est intéressé à la peinture ancienne dans ces régions. Alors bien sûr, il n'y a pas eu de Rubens en Wallonie, mais il y a eu des artistes parfois de fort belle qualité qui sont quasi totalement inconnus.
Par exemple
Alors je vois Micheline Wauthier. Je suis sûr qu'à peu près personne ne connaît en France Micheline Wauthier, qui est une des plus importantes femmes peintres du XVIIe siècle. Je n'ai pas dit femme peintre de Wallonie ou des Pays-Bas, une des plus importantes femmes peintres du XVIIe siècle.
Qui peint quel type de peinture?
Alors, qui peint des scènes religieuses, des scènes mythologiques, des portraits, des fleurs, des scènes de genre. Donc elle a, et qui a complètement échappé à l'historiographie. C'est pour le moment le professeur Kathleen van der Siegelen de l'Université catholique de Louvain flamand, qui retravaille son nom. On s'est rendu compte à un moment donné que nous avions des dossiers équivalents d'aller chacun de notre côté, parce que nous avons découvert cette personnalité qui est tout à fait remarquable. Je me souviens d'un tableau majeur de cette femme peintre qui était à la foire de Maastricht il y a 2-3 ans, mais sous le nom d'un autre grand maître, parce qu'elle est complètement inconnue. Et maintenant, mais elle a signé par chance un certain nombre de tableaux. Il y en a au Consistoris Museum de Vienne, Musée d'Anvers, Musée de Bruxelles. Et donc maintenant, sa personne commence à être un peu mieux connue grâce à ces tableaux. Mais elle a été ignorée de toute l'histoire de l'art parce que c'était une femme. Alors, je donne cet exemple parce qu'elle m'a beaucoup passionné. Elle est originaire de Mons, qui est une des grandes villes de Wallonie. Et donc, moi, au-delà de Liège, je m'intéresse un peu au grand foyer artistique dans le domaine de la peinture en Wallonie. C'est Mons, c'est Tournai, c'est Dinan et c'est Namur, après Liège. Liège reste le foyer le plus important. Et donc, je découvre dans ces zones-là toute une série de peintres plus ou moins importants qui ont été complètement négligés par l'histoire de l'art. Donc, mon projet de recherche en général, c'est la peinture ancienne en Wallonie, au départ de Liège. Alors Liège, donc j'ai commencé avec Liège au XVIIe siècle, j'ai élargi chronologiquement, j'ai beaucoup travaillé sur le XVIIIe siècle liégeois, j'ai travaillé sur Lambert Lombard et le XVIe siècle. J'ai, comme on l'a dit, quelques catalogues. Engelbert Fizel, moi j'ai quand même 160 tableaux et 300 dessins, hein, donc on peut faire une très belle monographie. Le problème, c'est que c'est un peintre qui est considéré comme trop secondaire pour faire l'objet d'un beau livre. Donc, au-delà des élèves de Flemmalle, j'ai répertorié quand même tous les peintres actifs dans la principauté du XVIIe siècle. J'en ai quand même plus de 330. Et je continue à répertorier, c'est jamais complet. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un grand nombre d'artistes. Maintenant, mes prochains projets, c'est d'abord, dans les 2 ans qui viennent, c'est de faire ces fameuses notices pour ce répertoire des tableaux qui ont été spoliés par les troupes révolutionnaires françaises. Et donc, faire un inventaire qui n'est pas revendicatif. Ça, j'ai bien insisté auprès de la ministre. C'est un inventaire strictement scientifique pour savoir ce qui a été fait. Parce que c'est passionnant aussi pour l'histoire du goût de voir quels tableaux ont été sélectionnés et pourquoi.
Et est-ce que vous avez réussi, en faisant cet inventaire, à identifier des tableaux que peut-être nous ne savons pas que nous avons dans des réserves, des choses mal attribuées, des choses comme ça?
Alors, donc, on est au début de cet inventaire, donc c'est un peu l'objectif. Moi, je peux dire que il y a eu 7 envois de Belgique vers la France entre le milieu de l'année 1794 et février 1795. Tout s'est fait très vite. En 8 mois de temps, tout était bouclé. Preuve que tout ça était très bien préparé. Eh bien, de ces 2 envois, il y en a un qui vient de Liège. Le 2e envoi, ce sont tous les tableaux de Liège. Là, j'ai fait l'analyse tableau par tableau et j'ai retrouvé effectivement des œuvres soit mal attribuées, soit qui avaient disparu, des œuvres qui ont disparu en cours de route aussi, des œuvres qui n'ont jamais atteint Paris. Donc il faut savoir qu'entre l'envoi, il n'y a pas eu d'inventaire précis au moment où les tableaux ont été enlevés essentiellement des églises. Et puis, ils arrivent à Paris, création des musées de province en 1801 par le décret Chaptal, lorsqu'on dissémine ces tableaux, on perd très souvent les données d'origine. Donc les tableaux n'arrivent pas avec les mêmes attributions, les mêmes origines, et donc j'ai pu effectivement, bon, il y a, je pense à un tableau au musée des Augustins à Toulouse, il y a le fameux grand Berthollet Flemmal, et bien non loin de là, il y a une crucifixion qui est arrivée sous le nom de Gérard de Lairès, je pense qu'elle était encore plus récemment exposée sous le nom de Gérard de Lairès, et j'ai pu démontrer que c'était un tableau de Berthollet Flemmal qui venait d'une grande abbaye de la région de Liège, dont c'est le seul tableau connu. C'est très important.
Il est dans le.
Il est évidemment dans le
Berthollet Flemmal. Merci donc Pierre-Yves Kéris pour avoir passé cette heure avec nous. Et donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.